L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Les partenaires des médias francophones publics vous accompagnent pour les grandes lignes de l'actualité de la semaine. C'est avec RFI, France Bleu, la radio-télévision suisse, avec Radio-Canada et la RTBF. Et on commence en Belgique cette semaine avec une nouvelle grève dans les prisons. Le personnel pénitentiaire dénonce à nouveau la surpopulation carcérale. Il y a trop de détenus et pas assez d'agents, Sophie Brems.
Oui, ce n'est pas neuf, mais la situation ne fait que s'aggraver. Il y a environ 1300 détenus en trop dans les prisons belges, si l'on tient compte des places disponibles, bien évidemment. Alors face à ce mouvement de grève, des agents et des policiers ont été réquisitionnés.
Plusieurs humanitaires tués par des tirs israéliens et parmi eux un Canadien. Ça s'est passé à Gaza en début de semaine, Fanny Sanson.
Oui, Jacob Flickinger, âgé de 33 ans, père d'un jeune enfant, est l'un des 7 travailleurs humanitaires tués dans des frappes israéliennes lundi. Ses proches sont en colère et le premier ministre du Canada réclame une enquête indépendante.
Ce tollé au Togo après l'adoption d'une nouvelle constitution, le texte, Nicolas Sûr, supprime la présidentielle au suffrage universel.
Oui, opposition et société civile redoutent que le président Fornia Singbe en profite pour se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam.
Nous allons aussi embarquer en Suisse cette semaine parce que le sort d'un bateau plus que centenaire a retenu l'attention depuis le week-end dernier, Pierre-Anne Chauffat.
Le Simplon, le plus imposant des 8 navires de la flotte Belle Époque sur le lac Léman, a bien failli couler dans la tempête. Sauvé, il est meurtri et ne pourra pas naviguer cet été.
Enfin, on se quittera à Marseille avec l'ouverture d'un nouveau café joyeux. Il en existe une vingtaine en France, il y en a un aussi à New York et à Bruxelles. Ces établissements inclusifs emploient des personnes en situation de handicap. Voilà donc pour le sommaire, merci d'être avec nous. Une grève, une de plus cette semaine, donc dans les prisons de Belgique, et ça va continuer. Les 3 principaux syndicats ont appelé le personnel pénitentiaire à débrayer. Ça dure depuis lundi dernier. Sophie, ils dénoncent une nouvelle fois la surpopulation carcérale et l'absence de solution face à cette situation.
Et le problème ne date pas d'hier, mais il ne fait que s'aggraver, notamment parce que le ministre de la Justice oblige désormais l'exécution des courtes peines, les peines de prison de moins de 3 ans. Une situation dénoncée par Harold Sachs. Il est avocat et coprésident de l'Observatoire international des prisons.
L'exécution des courtes peines, si on avait eu de la place pour les exécuter, aurait pu avoir un sens. Ici, il est venu greffer sur une situation qui était déjà chaotique l'exécution des courtes peines et tout le monde a dit que ça allait être catastrophique. Tout le monde a dit on va vers un chaos organisé par le ministre et on est en train de vivre la situation.
Une situation de plus en plus délicate donc. Des agents et des policiers ont été réquisitionnés, mais cette nouvelle grève, Sophie, c'est aussi un moment difficile pour les familles des détenus.
Tout à fait, parce que les activités dans les prisons et les visites sont réduites au strict minimum. Pour cette maman de 5 enfants dont le papa est en prison, ce n'est pas évident.
J'ai des enfants, je souhaite quand même que leur lien avec leur papa perdure et reste aussi fort qu'il ne l'était quand il était à l'extérieur. Sinon, comment voulez-vous qu'il garde un lien ? C'est compliqué.
Compliqué, d'autant que les syndicats n'entrevoient pas de solution. Il y a aujourd'hui un peu plus de 12 000 détenus dans les prisons belges pour 10 700 places théoriques.
Et une nouvelle concertation ce jeudi n'a pas permis de débloquer la situation. Israël parle d'erreur et reconnaît sa responsabilité dans une frappe qui a tué 7 travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza. Ça s'est passé en début de semaine. 3 Britanniques, un Palestinien, un Polonais, une Australienne et un Canadien de 33 ans. Israël parle d'actes involontaires, que les tirs visaient un homme armé du Hamas. Mais Fanny, les proches de la victime canadienne n'y croient pas.
Jacob Flickinger assurait la sécurité d'un convoi humanitaire de la World Central Kitchen, qui est un organisme de distribution d'aide alimentaire. Il avait la piqûre pour les missions à l'étranger. Il était à Gaza depuis quelques semaines et il devait rentrer au Costa Rica d'ici la fin de la semaine, où il habitait depuis 2 ans avec sa femme et son fils de 18 mois. Ses parents refusent de croire que ces frappes étaient une erreur.
Je pense vraiment que ce qui est arrivé, c'était planifié, c'était voulu. On veut affamer ces gens-là, on veut que tous ces enfants, toutes ces femmes, tous ces êtres-là crèvent. Et je veux dire, c'est horrible, c'est inacceptable.
La mère, donc, à l'instant de Jacob Flickinger, le travail humanitaire se poursuit à Gaza, mais la peur est là. Les employés craignent d'être pris pour cible par l'armée israélienne. Les frappes de lundi ont indigné le monde entier et singulièrement le Premier ministre canadien Justin Trudeau.
Oui, Justin Trudeau a déclaré que la mort de travailleurs humanitaires n'arrivait pas par hasard. Il a dit que ce n'était pas acceptable. On peut l'écouter.
Je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre Netanyahou quand il dit que c'est des choses qui arrivent dans la guerre. Mais non, ça ne devrait pas arriver. Ceux qui sont là pour protéger les civils doivent être protégés eux-mêmes.
Justin Trudeau a aussi réclamé une enquête indépendante pour faire la lumière sur les circonstances de ces frappes.
Tout comme d'ailleurs l'organisation humanitaire World Central Kitchen, Fanny, les proches du jeune Canadien attendent maintenant de lui rendre un dernier hommage.
Ils attendent le rapatriement du corps. Le gouvernement du Canada collabore avec la World Central Kitchen pour la suite des choses. Les funérailles auront lieu au Québec, dans la ville natale de Jacob Flickinger. Et en terminant, je souligne que près de 200 travailleurs humanitaires ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début du conflit.
Sur le continent africain, il va être question cette semaine de l'adoption d'une nouvelle constitution au Togo. Et Nicolas, ça provoque une levée de boucliers.
Oui, dans la nuit du 25 mars, une assemblée nationale acquise au pouvoir adopte une nouvelle loi fondamentale. Le texte, qui n'est d'ailleurs pas publié dans son intégralité, prévoit la suppression de l'élection présidentielle au suffrage universel. Le président de la République sera désormais élu par le Parlement et n'occupera plus qu'une fonction honorifique. Tous les pouvoirs sont transférés à un président du Conseil des ministres, un premier ministre, désigné par le parti majoritaire au Parlement. Pour lui, aucune limitation de mandat. Fournier Singbé va-t-il en profiter pour changer de casquette et rester au pouvoir à vie? Opposition et société civile crient au scandale, d'autant que le mandat des députés qui ont voté le texte a officiellement expiré depuis décembre. Des législatives, d'ailleurs, devaient avoir lieu le 20 avril, déjà en retard sur le calendrier légal.
Alors l'Église catholique a demandé au pouvoir de ne pas promulguer le texte et face aux protestations, la présidence cherche à gagner du temps.
Oui, d'abord le président Fournier Singbé demande une deuxième lecture au Parlement. Puis il annonce dans la semaine le report des législatives, le temps, dit la présidence, de mener les consultations nécessaires. Ses opposants dénoncent un jeu de dupes dans un pays tenu par la même famille depuis près de 60 ans. Le père Nyasingbé Yadema avait pris le pouvoir en 1967 après l'assassinat du premier président togolais Sylvanus Olympio. À son décès en 2005, son fils Fournier Singbé s'était installé à la présidence au terme d'une élection marquée par des fraudes et des violences meurtrières, au moins 500 morts selon l'ONU. Il a depuis été réélu en 2010, 2015 et 2020 au terme de processus électoraux à chaque fois contestés.
Nicolas Sûr pour RFI.
L'accent des autres.
Nous allons nous rendre à présent sur les bords du lac Léman. Depuis le début du XXe siècle, la flotte Belle Époque fait partie des paysages du lac frontalier entre la Suisse et la France. Alors quand l'un de ces bateaux à vapeur se fracasse contre les rochers, Pierron, l'émotion est vive.
C'est vrai qu'avec leur roue à aube et leur cheminée orange et noire dominant leur coque toute blanche, ces bateaux à vapeur appartiennent au patrimoine de cette région, des monuments historiques flottants qui constituent aussi une attraction touristique majeure. Ils sont donc entretenus et rénovés à grands frais, grâce notamment aux dons privés de passionnés de cette flotte historique.
Et donc l'un d'eux, le Simplon, a subi de gros dégâts.
Il était amarré au débarcadère de la bourgade de Cuy à la suite d'une avarie et la tempête l'a projeté toute une nuit sur les rochers. Il s'est même encastré sur le débarcadère avant de pouvoir être remorqué au chantier naval basé à Lausanne. En tenue de capitaine, le jeune Matisse l'attendait.
Ma mère, elle m'a dit de la catastrophe et j'ai fondu en larmes parce que c'était un de mes bateaux préférés. Justement, j'ai fêté mon anniversaire de mes 11 ans dessus avec un de mes amis. Surtout, je voyais que les pylônes étaient incrustés dans le bateau. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout.
Et là, il est là. Comment tu te sens maintenant?
Très rassurée, surtout. S'il coule ici, on pourra toujours le remonter plus facilement.
Voilà qui en dit long sur l'attachement ici pour cette flotte Belle Époque. Maurice Decopet préside l'Association des Amis des Bateaux à Vapeur du Léman.
Ça fait plus d'un siècle qu'ils sillonnent le lac, donc plusieurs générations l'ont vu. Et c'est vrai qu'il est très imposant. C'est le plus grand et le plus puissant vapeur sur un lac européen. On a même des touristes des États-Unis qui viennent. Et quand ils visitent l'Europe, eh bien, il faut un crochet par la Suisse, et notamment pour voir naviguer le Saint-Plon.
Classé monument historique il y a plus de 10 ans, le Saint-Plon sera bien sûr restauré. Sa coque est éventrée sur toute la longueur. Il sera donc en cale sèche pour la saison estivale.
Enfin, on va se quitter avec un petit café en France, à Marseille, parce que l'ouverture du 22e Café Joyeux a eu lieu là-bas cette semaine. Les Cafés Joyeux sont des établissements inclusifs qui emploient des personnes en situation de handicap, trisomie ou autisme notamment. Il y en a déjà pas mal en France, mais aussi un à New York et un à Bruxelles. Et mardi dernier, à l'occasion de la Journée internationale de l'autisme, un nouveau Café Joyeux s'est donc ouvert à Marseille. Il emploie 7 personnes en situation de handicap. Ce sont ce qu'on appelle des équipiers accompagnés par les skippers et ils tournent sur tous les postes, service, cuisine, caisse et plonge. Et ces personnes font partie du 0,5% de personnes atteintes de handicap mental et cognitif qui travaillent en milieu, disons, ordinaire. Je vous propose de visiter ce café différent avec Émilie Briffaut de France Bleu Provence.
En poussant la porte, rien ne laisse deviner que ce café est différent. La décoration est chaleureuse, la carte alléchante. La seule petite différence, c'est qu'ici, les équipiers, comme on les appelle, ont tous, justement, une différence, mais surtout, une très forte envie de bien faire.
Au début, c'était pas évident, mais je commence à prendre l'habitude. J'aime trop, ils sont trop sympas, les convives. Au Café Joyeux, on ne dit pas les clients, on les appelle les convives.
Les employés comme Félicien, eux, s'appellent les équipiers, et pour les accompagner sur tous les postes, il y a les skippers, comme Anne.
En fait, les équipiers au Café Joyeux sont vraiment polyvalents, depuis l'accueil du convive jusqu'à la préparation de commandes, le service et après le débarrassage, etc. Certains seront merveilleux à la plonge en service et auront plus de difficultés à la caisse, par exemple, pour la monnaie. Certains ne savent pas lire, certains ont du mal justement avec la relation avec le client.
Mais la différence, c'est qu'ici, les points faibles sont acceptés et même travaillés.
Moi, ma difficulté, c'est d'attendre sans rien faire. Quand j'ai rien à faire, je n'ai pas tout à avoir.
La difficulté de Félicien, c'est qu'ici, on ne peut pas faire vraiment d'heures sup. Et hier soir, il m'a dit, s'il te plaît, on peut faire des heures sup.
Car ici, quel que soit leur handicap, tous les équipiers partagent la même émotion.
On est joyeux. C'est une fierté, une grande fierté. Ça fait du bien.
Reportage Émilie Briffaut pour France Bleu Provence. Depuis 7 ans maintenant, 400 personnes ont rejoint l'aventure Café Joyeux et parmi elles, 190 personnes en situation de handicap mental et cognitif. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été au rendez-vous de l'accent des autres. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure.